Mais je sais, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que ça, je n'aime pas prêcher. Une prédication ne va jamais changer votre vie. Vous savez, moi, je suis fils de pasteur. J'ai 46 ans. À 8 jours, quand je suis né, je suis sorti de l'hôpital. Ma maman m'a amené à l'église. On avait des réunions le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Et en tant que fils de pasteur, je devais être là à toutes les réunions. Donc, j'ai entendu des prédications. Et ce n'est pas les prédications qui ont changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est l'application. Vous savez, on peut avoir toutes sortes on a ça dans les salles de sport, vous savez, vous avez des grands posters et ils vous montrent les exercices qu'il faut faire. Vous avez vu? Et puis en général, c'est un monsieur, il a des abdominaux, il a des biceps, ça c'est assez impressionnant. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que vous affichez ce poster dans votre maison, dans votre chambre, que le lendemain matin, vous allez vous réveiller, puis là, paf, waouh, des abdominaux, des biceps, ah, c'est incroyable. Non, ce n'est pas le fait de connaître les exercices qui font que les muscles gonflent, qui vous permettent d'avoir un corps d'athlète, mais c'est votre mise en pratique quotidienne, de dire, bon allez, je fais l'exercice numéro 1 et j'y vais. C'est la pratique des exercices qui vont vous permettre de vous développer physiquement. De même, Dieu nous a donné des exercices. La Bible est composée de trois choses. Dans la Bible, vous avez des commandements, vous avez des promesses, vous avez des vérités. Qu'est-ce qu'on fait face à un commandement? On obéit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement. Qu'est-ce qu'on fait face à une promesse? On y croit. On exerce notre foi. Qu'est-ce qu'on fait face à une vérité? On ne peut rien faire de plus pour rendre une vérité plus vraie. Une vérité reste une vérité. Il faut juste l'accepter. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux vous partager, mais avant ça, Katia va me rejoindre, parce que je vais vous dire pourquoi elle me rejoint. Mais ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va faire des exercices, alors pas physiques. L'idée, ce n'est pas qu'on va vous donner des exercices pour que vous puissiez vous développer physiquement, mais nous allons vous donner des exercices pour vous permettre, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille et en tant qu'église, de vous développer spirituellement. Mais Katia, donc pourquoi Katia est avec moi? Parce qu'on est inséparables.
Parce que je suis sa femme.
Aussi. Mais on est inséparables et on a appris quelque chose. Ça fait 25 ans qu'on sert le Seigneur ensemble. Mais c'est vrai que c'était plus moi qui étais un peu la partie visible de l'iceberg. Vous savez que c'est souvent la partie la plus petite. La partie la plus importante d'un iceberg, c'est la partie cachée. C'était Katia qui est vraiment une femme d'influence. Katia est très inspirée, très prophétique. Et justement, un ami prophète, un jour, nous a dit tout simplement un texte de la Bible. Et c'est ce qu'on veut pratiquer. Partout où on va, on pratique cette parole qu'il nous a donnée. Il a dit, un poursuit mille, mais deux va poursuivre 10 000. Vous êtes très complémentaires l'un et l'autre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne, tout ce qu'on fait, on le fait à deux. Donc chérie, je crois que tu avais peut-être des choses à partager. Tu avais reçu dans la louange, je te laisse l'opportunité de le faire.
Bonjour à tous. En fait, j'ai reçu deux choses. En fait, je suis très inspirée pendant la louange et je trouve que vous avez une super équipe de louanges, vraiment des personnes inspirées et inspirantes qui nous conduisent bien, qui savent où le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit va. Et donc, je me suis laissée juste porter ce matin. Et j'avais reçu deux choses dans la Bible. C'est dans Luc 4, quand Jésus reprend Ésaïe et qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et je sais que moi, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Et je sens vraiment que pendant le temps de louange, pour cette église, que vraiment le Seigneur disait ça, de dire l'Esprit du Seigneur est sur vous, sur chacun de vous. Vous avez chacun une mission particulière. Et aussi, j'avais reçu dans Romains, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Chantez vraiment de, que l'Esprit disait ce matin à l'Église, l'Esprit de Dieu est en vous, en chacun de vous. Croyez-le, comme disait Greg, la Bible le dit, c'est une vérité. Croyez-le, prenez cela et que vous allez voir vraiment l'Esprit de Dieu se manifester au travers de vous. Vous allez voir des aveugles voir, des sourds entendre. Vous allez vraiment apporter la parole de Dieu qui va libérer la vie. Vraiment chanter ça ce matin pour cette église et vous dire aussi que personnellement, on vous aime profondément avec Greg. Vos pasteurs sont juste magnifiques. On les aime profondément, c'est des amis chers à mon cœur. Isabelle, je t'aime vraiment, t'es une femme extraordinaire. Tu es une guerrière et ça, j'aime ça. Greg.
Merci. Merci Katia. On peut mettre le PowerPoint. Et je voulais juste vous dire combien, tout au long du message, à un moment donné, j'aurai une parole aussi pour l'Église, je vais la donner dans 10 minutes. Mais combien, c'est vrai, effectivement, nous, on regarde le Gard, et on regarde Nîmes, et on regarde de Béziers, on regarde le centre Martin Luther King avec beaucoup d'admiration, de respect, pas de complexe, mais parfois on doit lutter avec le complexe, mais on a beaucoup d'admiration pour ce que vous êtes, ce que vous faites, on a beaucoup d'affection pour vous. Et vous savez, vous avez une particularité, vous avez un rayonnement, je dirais, local, régional, mais aussi national et même international. Je vous le prouve maintenant. Nous étions, il y a 2 jours, vous savez, il y a ici, dans le fond de la salle, ils vont lever la main, il y a le responsable Europe du ministère Tout Equaloan, Mike et Lynn, ils sont là-bas, ils font coucou. Et puis, il y a aussi leurs amis, Sam et son épouse, qui sont là. Il y a Inma et son mari qui sont là aussi. C'est le ministère Tout Equaloan. C'est un ministère qui équipe les couples. Leur vision, c'est d'équiper 200 millions de couples dans le monde. Et ils sont présents dans 100 pays, mais ils n'étaient pas présents en France. Pour la première fois depuis hier, ils sont officiellement présents en France. Et où est-ce que la formation a eu lieu? La première formation, non pas à Paris, non pas à Marseille, ici, au centre Martin Luther King. Donc, merci pour votre générosité, mais aussi assumez ce rôle que vous avez aussi de vous avez un rayonnement local, mais vous avez aussi une responsabilité. C'est pas un hasard, c'est pas juste. Il y a une histoire d'amitié, c'est vrai, mais pas que. C'est dans votre ADN aussi d'être une église qui influence. Parce que là, du coup, avec ce ministère, de nombreux couples vont pouvoir former d'autres couples. Ça ressemble un peu au cours Alpha, vous voyez, sauf que c'est plus de la formation de disciples, de couples. L'accompagnement au mariage, etc. etc. Comme je vous disais, je suis né dans l'église et pour autant, ça ne m'a absolument pas. J'étais un enfant, j'étais de bébé jusqu'à 18 ans. J'ai écouté des tas de messages, ça ne m'a. Au contraire, non seulement ça ne me touchait pas, ça m'endurcissait. Parce que si je devais vous décrire, si je devais vous demander de décrire ce qui est Dieu, Dieu, il est quoi? Dieu est. Amour, ben oui, c'est la première chose qu'on apprend dans l'église de mon papa, c'était écrit sur ce mur ici. Dieu est amour. Je l'ai regardé pendant des années de mon enfance à mon adolescence. Je voyais ça, Dieu est amour, j'en pouvais plus, c'était long. J'avais qu'une hâte, j'avais mon estomac qui faisait bouah, c'était le 14 juillet dans mon estomac, vous voyez. Ça ne m'a pas touché, moi. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui m'a touché. On entend aussi que Dieu est puissant. Vous allez dans des églises assez charismatiques, ils parlent de la puissance de Dieu. J'ai un pasteur là qui m'a écrit pendant la louange, il m'a dit « Fire !» Parce qu'il sait que je prie, que je prêche ici. Et son message pour m'encourager, ça a été de dire « Fire !» Parce que c'est un charismatique, un pentecôtiste, et c'est sa façon d'encourager. Il y a des églises où on parle du Dieu puissant. On dit « Dieu est puissant, Dieu est amour ». D'autres églises, on va dire Dieu est saint. Et donc là, c'est la crainte de Dieu. On enseigne vraiment à être pur, à être saint, à être droit, à la justice. Mais c'est vrai que toutes ces choses sont vraies. Mais toutes ces choses ne m'ont pas touché, n'ont pas touché mon cœur d'adolescent. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est puissant. Mais ce que je veux libérer sur vous ce matin, c'est que vous compreniez, comme l'a dit Katia, Dieu est présent. Lisez avec moi Ézéchiel 48, verset 35, où Dieu se révèle. Vous savez, Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Il y avait Jireh, l'Éternel pourvoit. Il y avait Shalom, l'Éternel ma paix. Mais ici, dans Ézéchiel 48, verset 35, il dit de sa part, c'est lui qui parle. Il dit, je suis Yahvé Shama, l'Éternel présent. L'un des noms de Dieu, c'est Yahvé Shama. Donc, c'est dans la nature de Dieu, c'est dans l'identité de Dieu de manifester sa présence sur terre, sa présence dans ta vie, sa présence dans ton couple, dans ta famille, là où tu travailles, dans ton groupe de maison, au travers de cette église. Vous savez, un flambeau, s'il n'y a pas de flamme, il ne sert à rien. Un flambeau a besoin d'être allumé. Et là, il a toute son utilité. Vous savez, j'ai l'air fin si je me balade avec un flambeau qui est éteint. Je suis là, vous voyez, poum, je me cogne. Vous voyez, puis, mais là, Jésus dit, hey, vous êtes. Il n'a pas dit, je suis. Là, il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais pour être une lumière, on peut être un flambeau éteint ou un flambeau allumé. Et la présence de Dieu nous permet de pouvoir véhiculer cette lumière. Dieu, il n'est pas simplement amour, il n'est pas simplement puissant, mais il est aussi présent. Vous savez, plus on va dans le royaume de Dieu, plus on parle d'une chose, plus elle se manifeste. C'est-à-dire que plus je vais parler de l'amour, dans mon couple, l'amour de Dieu, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, et plus effectivement l'amour de Dieu va se manifester. Plus je vais parler de la présence de Dieu dans ma famille, dans mon couple, dans mon église, et plus la présence de Dieu va se manifester. Même dans le nom qui a été donné à Jésus, on voit l'importance que Dieu accorde à la manifestation de sa présence sur terre. Peut-être tu pourrais dire, hey, mince, il y a un décalage entre l'importance que Dieu accorde à sa présence sur terre et l'importance que moi j'y accorde à la présence de Dieu. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu le sentes ou pas, Dieu est présent. On ne peut rien faire de plus pour augmenter sa présence ici. Par contre, ce qu'on peut faire ce matin, si tu es d'accord avec moi, si tu collabores avec moi, ce qu'on peut faire, c'est augmenter ta sensibilité à la présence de Dieu. Et ça, c'est ce qui m'a touché. Je ne vais pas raconter mon témoignage de conversion, mais à 18 ans, ce n'est pas le fait de savoir que Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est saint qui m'a touché, qui a changé totalement ma vie. À 18 ans, je me suis vraiment une conversion radicale, foudroyante. Un dimanche matin, je suis rentré rebelle, fermé à Dieu à 10 heures et j'ai tapissé le sol de larmes. Le gars qui était responsable du ménage, il a dû frotter plusieurs fois avec la serpillière pour essuyer mes larmes. Pas des larmes de tristesse. Au début, il y a eu peut-être des larmes de repentance, 10 minutes. Mais après, une joie. J'étais quelqu'un de très timide, très complexé. Parce que pas très musclé, toutes sortes de complexes, très timide, introverti. Et à midi, j'étais une autre personne. Le vrai Greg, celui que vous voyez là, a été révélé à 18 ans. Je suis né à 18 ans. Pourquoi ? Bam ! La présence de Dieu. Yahvé Shama. Ça, c'est ce qui m'a touché. C'est ce que je veux vous transmettre. Mais lisons ensemble Matthieu 1, verset 23, qui nous montre l'importance ici que même dans le nom de Jésus, il est question de présence. Puisqu'il est dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire quoi, Dieu, Emmanuel ? Dieu avec nous. Waouh ! Ça ne veut pas dire Dieu est amour, et j'ai rien contre l'amour. Au contraire, je crois en ça, mais vous comprenez mon point ce matin. Je veux vraiment vous amener à, en tant qu'Église, parce que vous avez un grand mandat local, régional, national. Il faut que vous releviez ce mur-là, de la présence, la notion, la conscience de la présence de Dieu. Parce que je répète, elle est là. On ne peut rien faire, les chantres, les pasteurs, les responsables de cette église ne peuvent rien faire pour augmenter le niveau, l'intensité de la présence de Dieu. On ne peut rien faire, il est déjà à son maximum. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est nous, augmenter notre sensibilité à sa présence, parce qu'elle est là. Quand je suis devenu chrétien et je me suis ouvert à la présence de Dieu, merci. J'ai lu ma Bible et il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué dans la Bible, où je me suis dit, non, ça c'est exagéré. Et à l'époque, bon, du haut de mes 18 ans, vous me pardonnerez, mais du haut de mes 18 ans, j'ai dit, oh, je suis tombé sur Jean 16, verset 7. Vous allez le voir, il va s'afficher. Et je me suis dit, waouh, ça là, ça c'est l'arnaque du siècle. J'ai dit, ça là, Jean 16, verset 7, c'est une belle arnaque. Pourquoi ? Parce que moi, vous voyez, il faut comprendre, je viens de donner ma vie à Jésus, je ressens sa présence pour la première fois de ma vie. Pourtant, j'ai grandi dans l'église, comme je vous l'ai dit, hein, mais j'étais complètement hermétique à la présence de Dieu, pas hermétique à la parole de Dieu. Je l'entendais, je la connaissais, mais la présence était là, je la sentais. C'est comme quand on est amoureux. Hein, moi, je suis tombé amoureux de Katia, c'est une autre histoire. Mais il y a un avant, il y a un après, je la connaissais, c'était une amie, puis d'un seul coup, bam, l'amour. Et puis, je pense qu'à elle, et puis je ressens des choses, des émotions. Très agréable, c'est très agréable d'être amoureux. Et c'est la même chose quand on tombe en amour pour Dieu. Et je n'aimais pas ce texte parce qu'il est dit la chose suivante. C'est Jésus qui parle. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, j'ai dit, c'est une arnaque. Non mais, il y a des miracles, il y a des guérisons. Les gens sont sauvés par milliers. Les morts ressuscitent, les aveugles voient. Puis lui, on est trop contents. Hein, lui, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Non, tu te trompes. C'est vraiment pas avantageux. Non, reste ici. Vous voyez, on vit des choses trop belles. Non, reste là. Vous voyez, non, tu pars pas. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et du haut de mes 18 ans, je sentais ça comme une arnaque. C'est triste pour moi. Pourquoi tu pars ? Reste. Il confronte les religieux. Il a beaucoup de sagesse. Il donne des messages qui ont bouleversé le monde. Reste. Non, ça nous est vraiment pas avantageux que tu t'en ailles, vraiment pas. Vous voyez, c'était ce que moi je pensais. Et puis, j'ai médité. En quoi est-ce avantageux qu'il s'en aille ? Parce qu'il nous dit, si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous permettre... Avant Jésus, il faisait des choses extraordinaires, mais il n'était pas omniprésent. Quand il était à Bethléem, il était à Bethléem. Il ne se passait rien à Nazareth. Et quand il était à Nazareth, il n'était pas à Nîmes. Il ne se passait rien à Nîmes. Enfin, en tout cas, de son naturel à cette époque-là. Il se passait des choses à Nîmes. C'est toujours passé des choses hein, chez vous. Hein. Mais avec le Saint-Esprit, la présence de Dieu devenait universelle, devenait omniprésente. Colossiens 1, verset 27 nous dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Tu peux vivre des choses glorieuses en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'église, si on prend conscience, si on développe cette dimension. Christ en nous, pas Christ dans l'église, Christ, pas Christ dans le culte seulement, Christ là, ici, en nous. L'espérance de la gloire. Quand on reçoit Jésus, quand on cultive, vous savez, la présence de Dieu, ça se cultive. Ce n'est pas parce que tu plantes quelque chose, une graine, qu'elle va se développer, porter du fruit si tu ne l'arroses pas. Il faut arroser, il faut prendre soin de la présence de Dieu se cultive. Et Dieu souhaite, Emmanuel souhaite se manifester en nous, mais aussi au travers de nous. Et je vais vous raconter la première fois où la présence de Dieu s'est manifestée au travers de moi. C'était pour une guérison. Donc, je cultivais la présence de Dieu, c'est-à-dire que je vais vous dire comment tout à l'heure. Chaque jour, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, avec mon staff, je fais énormément de choses sur le plan local aussi, et puis national. On est responsable d'une organisation missionnaire qui implante des églises, et avec tout mon staff, des fois on a beaucoup de travail, mais je dis hop, on annule le travail. Première chose, la présence de Dieu. On cultive la présence de Dieu. Et donc, je cultivais cette présence. Et un jour, il y avait une réunion de guérison avec quelqu'un qui avait vraiment un don pour prier pour des malades au nom de Jésus. Et les malades étaient guéris. Donc, beaucoup de gens malades étaient là. C'est comme si vous tous vous avanciez pour que je prie pour vous. Il y avait 200 personnes. Il était tout seul. Et donc, il y avait une foule de 200 personnes autour de lui. Et moi, j'étais dans le fond parce que je m'occupais un petit peu de l'organisation. Puis, il y a une dame tout au fond. Donc avant qu'elle arrive ici, 1h30. Hein. Et elle avait une Minerve. Parce que dans un avion, une valise, vous savez, elle était assise, et la valise est tombée sur ses cervicales, et il y a eu, les cervicales ont été cassées, déplacées, enfin bref, elle a failli mourir. Hein. Et donc elle avait elle devait dormir avec cette Minerve, etc. Et puis c'était douloureux pour elle. Donc, voyant la distance, son fils avait, 18-19 ans, il me dit, est-ce que tu pourrais prier pour elle ? Alors je dis, ben oui, moi ça ne mange pas de pain, je le fais. Et au moment où je prie pour elle, je ne prie pas pour la guérison. Enfin, peut-être j'ai mal fait à l'époque, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit, sois guérie, et puis j'ai juste appelé à la présence. Je dis, que la présence de Dieu, Saint-Esprit, que ta présence descende sur ce coup. Que ta présence vienne réparer, restaurer cette douleur au nom de Jésus. Puis je suis derrière elle, je vois qu'elle pleure. Je dis, elle doit sentir la présence de Dieu. Il y avait Shama est en train d'opérer. Et ça me fait plaisir. Et d'un seul coup, elle se tourne vers moi et là, vision d'horreur. Elle commence à arracher sa Minerve. Et moi, je fais, non, fais pas ça. Je voyais déjà le cou tomber par terre. Puis on allait faire un foot, vous voyez, toum, les gens, hop, vous voyez. J'ai dit, non, j'avais peur, vous voyez. Et elle enlève sa Minerve. C'est ma première expérience de guérison. Ma première expérience avec Yahvé Shama, l'éternel présent. Et elle enlève sa Minerve, elle bouge son cou, complètement guérie. Sans que le grand pasteur, vous voyez, qui avait un don de guérison, ait pu prier pour elle. Ça s'est fait au fond, de manière très, très, très simple. Et j'aimerais vous le dire que quand je prie pour vous, Centre Martin Luther King, Dieu me dit que vous êtes une église Néhémie. Vous êtes une église Néhémie, pourquoi ? Parce que Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a restauré. Il y a un héritage. Hey, j'étais aux États-Unis, au fin fond de la Californie, on parlait de vous, de Nîmes, du Gard. Il y avait 4500 étudiants à cette école. Et il me sortait des noms de chez vous, là, du Gard, je ne savais même pas, moi. Il s'est passé ça, il parlait de l'héritage. Huguenot, notamment, le mouvement de l'esprit qui est... Dieu, il aurait pu choisir la Creuse, l'Aveyron. Non, il a choisi le Gard. Vous avez un héritage. Wow ! Mais c'est là où moi, je dis des fois, je flirte avec la jalousie. Mais bon, je me repens. Hein. Mais je dis, le centre Martin Luther King, les Gardois, tout ça. Vous avez un merveilleux héritage. Quelque chose de spécial pour que Dieu vous ait choisi à ce point-là. Parce qu'il y avait tellement d'autres régions. Vous voyez ? Il a choisi le Gard. Il y a un héritage. Et Néhémie a restauré, a rétabli un héritage. Et il l'a fait comment ? Vous savez, Néhémie a restauré Jérusalem, il a restauré l'autel d'abord. Le temple, l'église, si vous voulez, le temple était en ruine. La ville était en ruine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On commence d'abord à restaurer les maisons, restaurer la mairie, restaurer... Néhémie, la première chose qu'il a faite, c'est l'autel. C'est même pas l'église, hein, l'autel. Rétablir la présence. La connexion entre le ciel et la terre. Et ma question, c'est de vous dire, dans quel état, à titre personnel, est ton autel ? Je ne parle pas de ton église. Ton église me fait rougir de jalousie. J'aimerais avoir ça à Vézier. Vous avez une merveilleuse église. Je ne parle pas de votre ville. Votre ville est merveilleuse. On avait des gens de Paris qui étaient là à la formation qui ont dit « Mais c'est merveilleux, Nîmes. Je parle de ton hôtel. Hey, comment ? » Et peut-être que tu vas me dire « Mais il est bien, mon hôtel. Gloire à Dieu. » Mais une restauration, vous êtes une église, Néhémie. La restauration de personnel, de ton couple, de ta famille, peut-être que tu vois des choses à restaurer, des choses qui ont besoin d'être relevées. Néhémie, quand il a appris que c'était la ruine, il a pleuré. Il ne s'est pas mis au travail, 3 jours de jeûne et de prière, d'abord. Il a rétabli, il a cherché, il y avait Shama. Et dans quel état se trouve ton hôtel ? J'aimerais rapidement vous parler des bienfaits de la présence de Dieu. Pourquoi c'est si important d'accueillir la présence de Dieu ? Alors, on est vraiment sur des basiques. Hein. Je fais exprès de prendre vraiment, ce n'est pas une étude théologique, hein, c'est un dimanche matin. On est là pour apprendre à cultiver la présence de Dieu. Mais le psaume 23, que tout le monde connaît, « L'Éternel est mon berger », verset 4, lisez avec moi. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ?» Waouh, il y avait Shama. Il est la présence de Dieu. Je ne crains aucun mal, pas parce que je connais ma Bible par cœur, parce que j'intercède, je prie, j'ai le dernier CD de louange à la mode, mais je ne crains aucun mal, parce que la présence de Dieu. Ce que j'aime ici, c'est qu'il n'est pas dit que la marche avec Dieu, c'est l'absence totale d'épreuves. La vie avec Dieu, ce n'est pas l'absence d'épreuves. La marche avec Dieu, c'est l'assurance de toutes les traversées en ne craignant aucun mal. C'est votre attachement à la présence de Dieu qui va vous permettre de mener une vie victorieuse. Et on a des exemples dans la Bible. Par exemple, Joseph. On dit Joseph, waouh, il était numéro 2. Vous connaissez l'histoire, hein ? Numéro 2 de la première puissance mondiale de l'époque. C'est pas mal quand même comme position. On se dit, mais ce gars, qu'est-ce qu'il devait être intelligent ? Pourquoi lui, plus qu'un autre ? Puisqu'il avait 12 frères. Pourquoi lui ? Nous avons la parole de Dieu, la Bible nous donne la réponse en Genèse 39, versets 2 à 3. Pourquoi Joseph a à ce point prospéré dans sa vie ? Lisez avec moi. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit. Même les gens peuvent voir la présence de Dieu. Il y a quelque chose. Le nombre de fois on m'a dit, bon, moi je vais dans des milieux aussi, c'est pas, je fréquente des gens très très bien, très cultivés, puis je fréquente aussi les gens de la rue, les gens. Et quelqu'un un jour m'a dit, mais je ne sais pas ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu fumes, ce que tu sniffes, mais je veux ce que tu as. Parce que je n'avais pas besoin de lui parler du message de Jésus. Juste ma vie dit, mais il y a de l'énergie, il y a de la foi, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie, il y a de la positivité, il y a de l'encouragement. Tu es toujours en train d'encourager malgré mes fautes. Mais il était bouleversé par l'amour de Dieu au travers de moi. Pourquoi ? Hey, comme Joseph, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Quand un individu, une famille, une église cultive la présence de Dieu, ça se voit. Les gens de l'extérieur, ça se voit. Même les incroyants le voient. Donc la prospérité, la réussite de Joseph, elle n'était pas due à son cursus professionnel, mais à son rapport avec la présence de Dieu. Je pourrais parler de Samuel, mais je ne vais pas le faire. On va aller directement à la conclusion. J'aimerais prier avec vous et qu'on accueille. Hein on ne va pas faire qu'en parler, on va aussi pratiquer. Mais Samuel, vous savez, c'est quelqu'un qui avait vraiment... Il baignait dans la révélation. Dieu lui parlait, il recevait des messages de la part de Dieu. Pourquoi ? Si vous lisez 1 Samuel 3, 19 à 21, vous voyez que c'est rattaché à la présence de Dieu. On peut parler de David, qui était un héros. Il détruit Goliath. Il fédère des milliers de leaders. C'est 1 Samuel 12, versets 12 à 16, qui nous dit que c'était un grand fédérateur. Pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec lui. Je veux m'arrêter sur Josué, Exode 33, versets 8 à 11. Ce texte nous montre que Josué rentrait avec Moïse. On dit, ouais, Josué, c'est facile, c'est un grand guerrier, il a battu Amalek. Mais essayons de d'où il vient ce gars, de savoir un petit peu son curriculum. Josué, il rentrait, ce texte nous dit qu'il rentrait dans la tente de la rencontre, à l'entrée de la tente avec Moïse. Et Moïse s'entretenait avec Dieu. Dieu parlait à Moïse et Josué était là. Donc, vous voyez, Josué est un homme qui était habitué à la présence de Dieu. Parce qu'il voyait, que ça veut dire quoi ? Côtoyer, faites-vous amis avec des gens qui aiment, chérissent la présence de Dieu. Un jour, un de mes mentors, Paul Goulet, m'a dit « Greg, tes associations déterminent ta destination. » Donc, les gens avec qui les gens que tu fréquentes le plus, les gens avec qui tu t'associes vont forcément t'influencer, en bien ou en mal. Donc, ici, Josué, il était avec Moïse et il voyait Dieu, il assistait à une conversation entre Dieu et Moïse. Mais après, le texte, bon, on ne l'a pas vu en bas, mais le texte nous dit que Moïse, je le lis, « Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » Il avait capté Josué, le grand conquérant, le grand guerrier, celui, peut-être que tu mènes des combats pour ton couple, pour ta famille, pour tes finances, pour le salut dans cette ville et dans cette région. Mais vos futures victoires, elles se bâtissent dans la présence de Dieu. Le futur de Josué s'est bâti dans la présence de Dieu. Vos genoux peuvent vous amener plus loin que vos pieds. La présence de Dieu. Vos genoux peuvent vous amener beaucoup plus loin que vos pieds. Psaume 60, verset 12 nous dit « Avec Dieu, présence de Dieu, nous ferons des exploits. » Oui, nous sommes destinés. J'ai vu tellement de gens destinés aux exploits, négliger la présence de Dieu. Et puis prendre un mur. Vous savez, si je cours de toutes mes forces, je prends de l'élan et je me jette sur... Vous imaginez un petit peu la violence du choc et je vais perdre connaissance. Et j'ai vu tellement de gens qui étaient appelés à réaliser des exploits, mais échouer malheureusement parce que c'est avec Dieu. Oui, on est appelé à faire des exploits. On peut gonfler le torse. Yeah, je suis appelé à faire des exploits dans mon couple, dans ma famille, dans mes finances, dans ma vie d'église. Nous sommes en tant qu'église appelés à vivre des exploits. Ce n'est pas la fin, c'est que le début. Il y a plein de nouvelles pages que Dieu veut écrire avec le centre Martin Luther King. Ne vous reposez pas, vous êtes peut-être à 10%, 20% de ce que Dieu veut faire et vivre avec vous. Mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Alors, si Franck ou Timothée peuvent me rejoindre, j'aimerais prier pour vous et juste que le piano puisse jouer quelques instants pour simplement nous aider. On ne va pas chanter, hein, mais c'est juste nous aider à pratiquer la présence de Dieu. Parce que concrètement, comment on fait ? Maintenant que je vous ai, j'espère, un petit peu convaincu sur l'importance d'accueillir, de s'associer à la présence de Dieu. Le summum de notre culte, ça va être avec, dans quelques instants, Pascal, et on va prendre la Sainte-Seine qui est ici. Mais je veux qu'on passe par 5 minutes d'expérimentation. Soyons très concrets. Vous avez compris que la présence de Dieu, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se reçoit, c'est quelque chose qui se cultive. Ce n'est pas le tout, quand on travaille la terre, ce n'est pas le tout de mettre une semence. C'est que le début, ça. Il va falloir arroser et enlever. Il y a des ennemis qui vont venir. Le froid, il va falloir protéger. Il y a des mauvaises herbes, des épines. Il va falloir arracher parce que vous protégez votre semence. Mais la présence de Dieu se cultive. Et donc là, je vais vous demander de vous asseoir confortablement. Moi, j'ai besoin, quand je veux rencontrer Dieu, j'ai besoin d'être confortablement assis, parce que sinon j'ai une douleur, j'ai un truc, j'ai des fourmis, j'ai quelque chose qui va me distraire. Mais il y a un autre passage dans la Bible qui m'a choqué quand j'avais 18 ans. Mais alors choqué, le deuxième passage qui m'a choqué, c'est le plus connu, c'est le premier des commandements. J'aimais pas ce passage, du haut de mes 18 ans. Matthieu 22, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Oh, moi, je n'étais pas content. J'ai dit, mais dis donc, il a du rejet, il a un problème d'identité, Dieu ou quoi ? Aimez-moi, aimez-moi. Il est narcissique. Je ne comprenais pas ce texte. Je dis, mais comment, moi, j'aurais été Dieu ? je vous aurais jamais demandé en tant que Dieu de m'aimer. Premier commandement, aimez-moi. C'est choquant. Moi, j'ai trouvé ça choquant. Aimez-moi de tout votre cœur. Aimez-moi de toute votre pensée. Aimez-moi. Je dis non, moi j'aurais été Dieu, j'aurais dit, hey, il y a des gens dehors, il faut aller les aimer, il faut aller les aider, il faut prendre soin d'eux. Moi, ça va, écoutez, je gère. Vous voyez ? Non, Dieu dit, hey, première chose, vous ne vous occupez pas des pauvres, ça viendra après. Vous ne vous occupez pas des pauvres, des malheureux. Aimez-moi. Et moi, j'étais gêné. Hein. Je dis, mais il est narcissique. Dieu est j'ai donné ma vie à un Dieu narcissique, quoi. Vous voyez ? J'étais très, très, très gêné. Et j'ai trouvé la réponse. Parce qu'il y a une logique. Bien sûr que Dieu n'est pas narcissique. Il y a une logique. Et c'est ce qu'on va pratiquer maintenant. La réponse, elle est venue bien plus loin. Il a fallu que je lise ma Bible et que je tombe sur 2 Corinthiens 3, verset 18. On ne le voit pas entièrement, mais je vais vous le lire. Il est parlé de Yahvé Shama. Il se passe quelque chose. Et ça peut prendre une minute. Moi, des fois, maintenant que je cultive bien ça, ça me prend 30 secondes. On va le faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, nous tous qui, lorsque on commence à contempler Dieu, à l'adorer, à nous ouvrir à sa présence, juste en lui disant, je viens d'apprendre que tu es déjà présent, je ne sens rien. Mais je te demande pardon parce que peut-être que si je sens rien, c'est parce que je n'ai jamais été préoccupé par la présence de Dieu. J'ai jamais prêté attention à la présence de Dieu. Alors je commence à te demander pardon, Dieu, pour ça. Parce que je sais maintenant que tu es présent. Et le texte continue. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Quand tu t'ouvres à la présence de Dieu, comme on va le faire maintenant, il y a un mécanisme spirituel. C'est une loi. On ne peut rien faire contre. C'est la loi. C'est comme la loi de la gravité. Je jette ce stylo et il tombe. Ça, c'est une loi physique. Là, je viens de vous démontrer une loi spirituelle. On ne peut pas lutter contre. Lorsqu'on commence à quitter nos préoccupations, s'attacher à la présence de Dieu, comme certains sont en train de le faire, vous pouvez commencer à fermer vos yeux. Il se passe quelque chose. Nous sommes transformés. Mais en quoi ? En la même image. Par le Seigneur, l'Esprit. Ici, il nous est parlé de... Waouh, l'Esprit nous est parlé comme... nous est présenté comme un Seigneur. La Seigneurie du Saint-Esprit. Il y a une transformation. Pourquoi ? Parce qu'on se focalise non plus sur nos problèmes, sur nos responsabilités, sur nos fonctions, sur nos projets, mais sur la personne et la présence de Dieu. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant, tout simplement. Et Père, ensemble, avec tous mes amis, on veut te dire merci pour la croix. Merci pour la présence divine, la présence du ciel, la présence totale de Christ en nous. On ne peut rien faire pour augmenter la mesure de ta présence. Mais on peut faire des choses qui vont nous permettre de nous ouvrir et d'expérimenter ta présence. Et en tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, la première chose que nous voulons faire, Seigneur, c'est te demander pardon. On te demande pardon peut-être pour la négligence d'un tel trésor. C'est comme si c'est comme si on avait 100 000, toutes nos économies, 300 000 euros dans la voiture et qu'on laisserait ouvert notre voiture. On te demande pardon, Seigneur, d'avoir négligé notre trésor, d'avoir fait passer nos projets, nos programmes, nos activités avant l'autel. Et en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant que famille, en tant qu'église, nous prenons l'engagement maintenant de rétablir l'autel. Il y a tellement de choses à restaurer en nous, tellement de choses à restaurer dans notre église, tellement de choses à restaurer à Nîmes et dans notre région. Mais on sait que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et on se détourne des exploits futurs, on arrête de les regarder et on regarde Dieu maintenant. et commencez à remercier Dieu pour ce qu'il est pour vous. Si vous remerciez Dieu pour sa présence, vous allez être, le texte nous dit que par le Saint-Esprit, vous allez expérimenter sa présence. Nous sommes transformés à la même image de ce qu'on adore. Vous adorez Dieu pour son amour inconditionnel, malgré vos fautes, vos péchés. Et vous allez expérimenter l'amour de Dieu qui vous purifie de toute iniquité. Vous adorez Dieu pour sa puissance. Si vous êtes malade, si vous avez une partie de votre corps qui est malade, vous mettez votre main tout de suite sur la partie malade. Et au nom de Jésus, Yahvé Shama, l'éternel présent, nous libérons ta puissance. Nous libérons ton onction de guérison maintenant. Et que toute douleur, tout dysfonctionnement physique vous quitte maintenant au nom de Jésus. Laisse place à la guérison. La guérison divine pour votre système sanguin, système musculaire, au nom de Jésus, guéri, système nerveux, au nom de Jésus. Tous vos organes fonctionnent, sont rétablis dans leur fonctionnement d'origine parce que Yahvé est Shama, parce que l'Éternel est présent. On libère cette onction de guérison maintenant au nom de Jésus. Il y a des idées créatives qui sont en train de tomber sur l'Église ici maintenant. Des idées créatives viennent. Des idées créatives, c'est quoi? C'est des idées que Dieu donne, des choses que vous allez faire. Vous êtes comme une terre et Dieu est en train de semer des idées là maintenant, au nom de Jésus. Des rêves, des actions d'amour, de réconciliation, de pardon. Il y a des idées de maturité. Je vois des gens, vous étiez enfermés dans des émotions négatives, de rancœur, puis là votre cœur déborde d'amour. C'est la présence de Dieu qui est en train de changer, chambouler totalement l'atmosphère de votre cœur. Saint-Esprit, sature ce lieu, sature nos cœurs, nos vies. Nous mettons notre main dans ta main. Nous nous marions à toi, nous nous unissons à toi, nous accueillons ta présence. Et en tant qu'homme, femme, couple, famille, église, nous te faisons la promesse, Seigneur, d'être beaucoup plus vigilant, respectueux de ta présence. On va collaborer avec ta présence, recevoir tes idées, recevoir ton onction, recevoir ton cœur. Certains, je vois, il y a la compassion qui est en train de venir maintenant. Une compassion, un amour pour une catégorie de personnes. Vous dites, je veux servir là, je veux me battre, je veux faire des exploits dans ce domaine. Il y a des vocations qui sont en train d'être, oh là là, c'est comme des puits, il y a comme des vocations qui sont débouchées maintenant. C'est comme un geyser. Cette église est comme un torrent, un fleuve. Il y a la vie